France Musique. Étonnez-moi, Benoît.
Ce matin, nous avions rendez-vous avec Macha Merrill, qui viendra en fait samedi prochain nous parler de son roman et de son spectacle Sorcière. Mais entre-temps, après la disparition de Juliette Gréco, il a semblé tout naturel de vous proposer de la retrouver dans un entretien que nous avions eu en 2012 à l'occasion de la parution de ses souvenirs. Une Gréco de 85 ans, joyeuse, facétieuse, fine et précise pour faire revivre tout le Paris artistique et littéraire d'après-guerre, l'histoire d'une jeunesse avec ses vagabondages, ses rencontres et ses amours.
J'ai dormi sur n'importe quoi, la plume, le fer à tout le bois. Ta peau n'était pas la plus chaude, il y a si longtemps que je rôde. Depuis je ne dors que sur toi. Depuis je ne dors que sur toi. J'ai chanté pour n'importe qui, musique de jour et de nuit. Ta voix n'était pas la plus chaude, il y a si longtemps que je rôde. Depuis je ne chante que pour toi. Depuis je ne chante pour toi. J'ai navigué mon corps par-ci, je l'ai baigné par-là aussi. Ton nom n'était pas la plus chaude, il y a si longtemps que je rôde. Depuis je ne plonge qu'en toi. Depuis je ne plonge qu'en toi. Jamais su si j'aimais, le saurais-je un jour ou jamais. Ta main n'était pas la plus chaude, il y a si longtemps que je rôde. Depuis je ne tiens plus qu'à toi, 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 toi. Depuis je ne dors que sur toi, depuis je ne chante que pour toi. Toi.
Juliette Gréco avec l'orchestre d'Alain Goraguer en 1965 dans La Rôdeuse, une chanson de Guy Béart qui était à l'honneur ici même voici un mois et auquel on doit bien sûr également le célèbre Il n'y a plus d'après.
Étonnez-moi Benoît, Benoît Dutertre, France Musique.
Béart, mais aussi Prévert, Queneau, Ferré, Gainsbourg, ce sont là quelques-uns des auteurs et amis de Juliette Gréco qu'elle va évoquer pour nous dans un instant au cours de cet entretien du 17 mars 2012, un moment délicieux passé avec cet artiste disparu mercredi à l'âge de 93 ans, une personnalité unique, une voix merveilleuse, mais aussi probablement la dernière grande figure du Saint-Germain de l'après-guerre, ce Paris qu'elle chantait encore en cette même année 2012 dans son album « Ça se traverse et c'est beau », ici en duo avec Marc Lavoine.
On est seul et l'on traîne sur le pont Birakem, un chagrin dans la peau sur le pont Mirabeau.
On se dit des mots tendres sur le pont Alexandre, mais l'amour n'y est pas sur le pont d'Iéna. Les oiseaux chantent la Seine dans le cœur. C'est la la la.
Les péniches vont et viennent. C'est ma vie. C'est la la la.
Vivre aujourd'hui, vivre au jour le jour, avec du vague à l'amour.
Par
d'Austerlitz pour un homme qu'on aima sur le pont de l'Alma.
Tu m'avais trouvée belle sur le pont de Grenelle, mais tu ne m'as rien dit sur le pont de Paris.
Mes souvenirs chantent la Seine, dans mon cœur c'est la la la.
Les amoureux vont et viennent, c'est la vie, c'est la la la.
Vivre aujourd'hui, vivre au jour le jour, avec du vague à l'amour.
Partir d'ici, revenir un jour, comme une vague à l'amour. On est seul et on traîne sur le pont Birakem, un chagrin dans la peau, sur le pont Mirabeau.
On se dit...
Bonjour Juliette Gréco.
Bonjour jeune homme.
On vous sent très, très heureuse dans ce disque, très en fusion avec les musiciens, vos partenaires, ici Marc Lavoine.
Oui, oui, hein. Tout à fait, tout à fait. J'ai eu beaucoup de bonheur à faire ça.
Le séduisant Marc Lavoine, c'est la première fois que...
Oh,
que...
Il est tuant. Hein? Il a, lui, les yeux revolver.
C'est lui qui a écrit cette chanson, d'ailleurs.
Bien sûr.
Mais en même temps, les ponts de Paris sont très présents dans tout le disque. Ils reviennent à plusieurs reprises. Il y a le pont Mirabeau, il y a le pont Royal, il y a le petit pont.
C'est là-dessus, hein.
Voilà.
Ça se traverse, hein, et c'est beau.
Ça se traverse et c'est beau. Et je voulais vous demander, parce qu'on est sur France Musique, on est très heureux de vous recevoir ici, Juliette Gréco. On vous sent heureuse dans ce disque-là. Le travail en studio, le travail avec les musiciens, c'est quelque chose qui vous passionne, vous intéressez à la couleur du son, aux arrangements, etc.
Je m'intéresse à tout.
Oui, j'imagine bien.
Même au physique.
Même au physique des musiciens. Mais vous suivez de près, je veux dire, l'élaboration du morceau avec le chef d'orchestre, c'est quelque chose...
Évidemment.
Oui, toujours.
Bien sûr. J'ai toujours travaillé en direct.
Oui.
C'est ce qui est très démodé, en tout cas pas à la mode.
Ah oui, en une seule prise, enfin, je veux dire, sans faire plein de montage.
Non, non. Normalement, c'est deux prises, trois prises maximum, et puis voilà, puis on voit.
Vous essayez en fait presque au fond de recréer en studio les mêmes conditions que sur une scène.
Hein. Je ne peux pas chanter si je n'ai pas de public.
Voilà.
Ou alors, je chante dans ma salle de bain le répertoire de Luis Mariano.
Ça vous arrive ?
Ah, tout à fait. La Belle de Cadix, c'est parfaitement. Mais...
Vous êtes allé voir à l'époque ces opéras ? Vous n'en parlez pas dans votre livre.
Non, mais je chante tout ce que j'ai entendu, tout ce que j'entends dans la journée, comme ça. Ouais. Mes chansons, moi, je ne les chante pas, jamais. Je me chante, et puis je ne me réécoute pas. Plus jamais quand
plus
c'est
jamais.
Terminé.
Non, ah oui, une fois que jamais. C'est terminé.
Non, parce que c'est ce côté inéluctable, ce qui est fait est fait. C'est comme au cinéma.
Ouais.
C'est terrible. Ouais. Au théâtre, on progresse sans arrêt. Sur la scène, on progresse sans arrêt. Hein? En direct, on progresse sans arrêt. En tout cas, on essaie. Mais là, c'est sans appel. C'est fini. On ne pourra plus jamais refaire quelque chose. Donc il faut l'accepter. Et puis, si je l'accepte pas, c'est pas la peine de me mettre de mauvaise humeur. Voilà.
Et c'est ce qui fait la magie de ce disque. Avec aussi, alors, quelque chose que, je dirais deux choses que vous avez développées peut-être un peu plus ces dernières années, c'est-à-dire le goût du duo, hein. Il y en a pas mal.
Ces dernières années, non. Juste là.
Oui, enfin, dans ce disque, ouais, oui, effectivement, en particulier.
Ouais.
Mais, oui, c'est vrai, vous avez fait appel à des auteurs, comme Abdel Malik, tout ça, mais c'est...
Ah. Malik, c'est très particulier.
Ah, voilà, quand même. C'est un peu plus que les autres.
Malik, c'est une affaire de profonde amitié et d'émerveillement de ma part. Oui. C'est quelqu'un que j'aime énormément, que je respecte infiniment. Voilà, c'est un homme de lumière, c'est un homme de paix, c'est un homme de douceur et c'est un homme d'action.
Le duo, donc, je disais, et puis le... Quelque chose qui est entre le parler et le chanter, souvent. Hein ?
Et oui, donc ça me va.
Oui, ça vous va très bien, je confirme. Vous avez dit que vous chantiez parfois du Luis Mariano sous votre douche. La musique, d'une façon plus générale, on évacue la question, c'est pas très important, mais la musique classique dans votre vie, ça compte beaucoup ou pas ?
Bah oui, c'est la seule chose qui compte.
Oui.
En vérité, oui, si mon humeur est... est difficile, si les problèmes sont très très graves, oui. J'appelle Docteur Mozart.
Docteur Mozart, d'accord, oui c'est vrai, ça marche ça, en
ça
général.
Marche très
un
bien.
Concerto pour piano.
Ça marche très très bien. Clara Askill, parfait.
Par Clara Askill, bon, alors c'est bien. Et parfois aussi le Docteur Caruso, non?
Docteur Caruso, c'était quand j'étais petite, mais j'étais pas encore malade. J'étais pas malade de la vie.
Bon, bah alors justement, vous avez dit quand j'étais petite, alors on va remonter à la toute jeune fille, Juliette Gréco.
T'es toute nue sous ton poule, y'a la rue qui est ma jolie môme. T'as ton cœur à ton cou et le bonheur par en dessous, jolie môme. T'as la rimelle qui fout le camp, c'est le dégel des amants, joli môme. Ta prairie, ça sent bon, fais-en don aux amis, joli môme. T'es qu'une fleur de printemps qui se fout de l'heure et du temps. T'es qu'une rose éclatée que l'on pose à côté, joli môme. T'es qu'un brin de soleil dans le chagrin du réveil. T'es qu'une vampe qu'on éteint comme une lampe au matin, joli môme. Tes baisers sont pointus comme un accent aigu, joli môme. Tes petits seins sont du jour à la coque, à l'amour, joli môme. Ta barrière de froufrou à fausse la ferme, c'est doux, joli môme. Ta violette et le violon qu'on violente, et c'est bon, joli môme. T'es qu'une fleur de passe-temps qui se fout de l'air et du temps. T'es qu'une étoile d'amour qu'on entoile au beau jour, joli môme. T'es qu'un point sur les i du chagrin de la vie. T'es qu'une chose de la vie qu'on arrose, qu'on oublie, joli môme. T'as qu'une paire de mirettes au poker des conquêtes, joli môme. T'as qu'une rime au bonheur, ah faut que ça rime ou que ça pleure, joli môme. T'as qu'une source au milieu qu'éclabousse du bon Dieu, joli môme. T'as qu'une porte en voile blanc que l'on pousse en chantant, joli môme. T'es qu'une pauvre petite fleur qu'on guimauve et qui meurt. T'es qu'une femme à repasser quand son âme est froissée, joli môme. T'es qu'une feuille de l'automne, qu'on est feuille monotone. T'es qu'une joie en aller, et va chez lui la retrouver, joli môme. T'es toute nue sous ton poule, y'a la rue qui est ma boule. T'es toute nue sous ton poule, y'a la rue qui est ma boule. Joli môme.
Cette belle chanson de Léo Ferré, bah, je trouve qu'elle vous ressemble, Juliette Gréco, encore qu'il ne l'ait pas écrite vraiment pour vous. Mais...
pas du tout.
Voilà, mais c'est tombé comme ça, il vous l'a donné.
Oui.
Il a chantier.
Ou alors ça l'a inspiré, il y a eu un truc, mais il l'avait préparé.
Voilà. Il vous suivait déjà parce que vous racontez oui. Que en 1954, à l'Olympia, il était là au premier rang, il criait « Allez Juliette, allez Juliette hein !»
Et puis mignon.
Quelques années plus tard, donc il vous a fait venir chez lui, c'était en 60.
Oui.
Et il vous a proposé des chansons.
Voilà, il m'a fait venir chez lui où il y avait un couloir sombre,
ouais.
Avec sur le côté gauche une chambre éclairée, ouais. Très très doucement, comme pour un enfant, une douce lumière comme ça. Et sur chaque lit, il y avait un grand chien blanc. Et puis on avançait, et puis dans le salon, il y avait un buste de Beethoven tellement gros que le salon était tout petit, avec un grand piano. Et puis, un petit singe qui est arrivé habillé en marin.
Et voilà, le petit singe, vous racontez ça aussi, c'est voilà. Incroyable.
Mmh.
Voilà.
Et là, il m'a joué joli mot, mais il m'a joué plein d'autres choses magnifiques.
Oui, il vous a proposé aussi Paris Canaille, que vous avez chanté par la suite. Mais joli mot, vous l'avez chanté avant lui.
Oui, voilà. Joli mot, je chante après. Mais Paris Canaille, la créatrice somptueuse, en est Catherine Sauvage, qui est une interprète unique.
Oui, merci de le dire, parce que voilà, quelques disques reparaissent au fil du temps, mais on n'en parle peut-être pas assez aujourd'hui. Et oui, je disais, elle vous ressemble cette jolie môme, parce que ce qui est assez fascinant dans ses souvenirs, c'est que On découvre qu'au fond, la Juliette Gréco, encore adolescente, s'est retrouvée toute seule quasiment dans les rues de Paris après que votre mère et votre sœur aient été arrêtées et déportées. Vous veniez de province, vous étiez à Paris, un peu livrée à vous-même.
Oui.
Et c'est une situation très difficile en pleine guerre. En même temps, on ne vous sent pas écrasée par le malheur parce qu'il y a la jeunesse, il y a l'adolescence, il y a la curiosité de tout dans ces années-là. Et voilà,
Je n'aime pas le malheur.
Non?
Non, je n'ai aucune délectation morose. Je pense que le malheur est une chose à laquelle il faut tordre le cou.
Oui.
Voilà, on essaie. Si on réussit, ça va.
Mais au fond, vous avez été habituée très jeune à vous débrouiller complètement toute seule, quoi.
Complètement, toute voilà. Seule, oui. Oui, oui. Mais je ne suis pas tombée dans la prostitution parce que j'ai très mauvais caractère et que j'avais appris des trucs en prison très bien parce que j'étais.
Vous avez été vous-même arrêté en plus par la Gestapo.
J'étais à Fresnes, dans un endroit très bien fréquenté.
Et très mais au contraire, vous expliquez que ce sont des prostituées qui vous.
Mais là, je suis tombée en ma collègue des prostituées
qui vous ont expliqué des choses.
Non.
Enfin, au début, elle n'était pas très gentille.
Non, mais après... Au début, elle parlait toute seule, ouais. Je tirais les cartes et tout, et elle parlait d'une race que je ne connaissais pas, qui était celle des hommes. Sexe masculin, plus exactement, voilà. Donc, j'ai appris plein de trucs. Je dis toujours que j'ai été élevé à l'école supérieure du trottoir.
Voilà, c'est ça.
Ça m'a enchanté. Je suis sortie de là, non point méfiante, mais vigilante.
Ouais.
Je me suis dit que tous les hommes n'étant pas mon grand-père, il valait mieux que je fasse gaffe, quoi.
Voilà, parce que votre grand-père, c'est l'homme de votre enfance, si on peut
c'est
dire.
De ma vie,
vous
oui.
L'expliquez dans ce livre. Vie. Parce que vous avez été élevé par vos grands-parents, après que vos parents se soient séparés, que votre mère ait décidé de faire sa vie à Paris. Il y a des choses terribles d'ailleurs, parce que vous expliquez au fond que votre mère ne vous aimait pas.
Elle ne m'a pas désiré.
Oui.
Elle a eu un accouchement épouvantable à cause de moi. J'étais un enfant très gros.
Oui.
Je pesais 9 livres et demi et c'était une horreur pour elle. Et non seulement je ne t'ai pas désiré, mais encore je n'étais pas un garçon.
En plus, oui, alors ça, c'est vraiment une
c'est,
erreur.
C'est le comble.
Ça,
hein.
Mais il y a une scène très frappante, c'est quand votre mère et votre sœur Charlotte rentrent de Ravensbrück,
oui.
Et à l'hôtel Lutetia, vous venez pour les accueillir et vous pensez qu'enfin, ça va peut-être vous rapprocher ce moment tellement attendu de votre mère. Et elle vivait avec une autre femme et à ce moment-là, au lieu de vous demander de vos nouvelles, de se précipiter vers vous, elle demande tout de suite des nouvelles de son amie. Comme si vous ne comptiez pas.
Je ne lui en veux pas du tout. Et je continue de dire, et je continuerai de dire toute ma vie, qu'il vaut mieux aimer qu'être aimé.
Cette enfance est très frappante, et on voit donc naître, au fond, le personnage de Juliette Gréco. Et c'est amusant aussi la façon dont vous adoptez tout d'un coup, presque par hasard, ce qui va devenir votre uniforme, parce que vous n'avez pas les uniformes, mais votre costume, votre look, comme on dirait aujourd'hui, votre pantalon, votre casquette, ça se fait comme ça sur un coup de tête, et puis ça va finalement
mais
devenir
Juliette Gréco. Ça se fait normalement.
Oui.
C'est même pas un choix, c'est une obligation, voilà. Donc je suis habillé par mes copains garçons qui sont dans la pension de famille. Et
voilà, rue Servandoni, tout près de Saint-Sulpice, une petite pension de famille très populaire qu'on n'imaginerait pas aujourd'hui dans le quartier Saint-Germain, certes.
Ah, c'est, absolument, c'était tenu par une dame tout à fait extraordinaire qui roulait ses cheveux sur ce qu'on appelait des épingles neige.
Ouais.
Ça. Et elle avait chez elle, dans sa chambre, des poupées avec des pieds peints, de ces poupées 1925-30, comme ça. Et c'était une dame absolument charmante et qui était bienveillante. Je ne sais pas si la bienveillance existe encore beaucoup.
En tout cas, oui, là, on vous sent accueilli dans une espèce de famille inventée
tout à
pour
fait,
vous.
Complètement, de laquelle fait partie un jeune garçon qui ressemble à un archange et qui s'appelle Gérard Philippe et qui monte les marches de l'escalier avec des ailes dans le dos.
Et quelqu'un qui compte beaucoup, alors on le comprend dans ce livre, dans votre histoire, au fond, qui fait peut-être que vous êtes devenue Juliette Gréco, c'est Hélène Duc.
Qui est ma mère, qui m'a gardée comme on garde son propre enfant.
Voilà.
Qui m'a protégée de tout, et qui m'a aidée à vivre. Parce que sans elle, je n'aurais pas pu accéder à un cours de théâtre. Sans elle, je n'aurais pas pu aller au théâtre. Sans elle, je n'aurais pas pu écouter des gens de théâtre. Je n'aurais pas pu écouter des gens comme O'Brady, qui était un formidable marionnettiste. Comme ça, il avait des petites boules au bout de ses doigts, et puis il faisait des personnages. Dans cette pension de famille, il y avait des gens très extraordinaires, comme une femme qui était spécialiste de la lèpre. Il y avait des gens tout, remarquables. Il y avait un type qui s'appelait Pierre Rich, qui était un vieux monsieur qui m'aimait beaucoup et qui de temps en temps m'invitait à manger autre chose qu'un fricheté infect, parce qu'il avait pitié de moi et qu'il m'aimait bien. Il faisait des masques de théâtre. C'était un formidable comédien, il s'appelait Pierre Rich, on l'a oublié.
Au fond, on reviendra sur la naissance de Saint-Germain-des-Prés, mais là, à cette époque-là, juste au début, Juliette Gréco, rapidement, c'est un petit trio, quoi. C'est Juliette Gréco, Anne-Marie Casalis et Marc Delitz.
Marc Delitz.
Voilà,
exact,
ce sont vos
exact.
Deux amis. Ouais. Et Anne-Marie Casalis va aussi vous ouvrir des portes parce qu'elle est déjà une jeune
journaliste.
Elle a écrit, elle est un petit peu à la mode, en tout cas
elle connaît
les gens.
Oui, elle a eu le prix Valérie, elle est une poétesse.
Voilà, vous devenez copains comme ça et tout d'un coup ce tout jeune trio va passer au centre d'un quartier en train de naître.
Il passe d'abord, bizarrement, par la rive droite, qui est le bœuf sur le toit.
Oui, c'est vrai, vous expliquez ça.
C'est d'abord le bœuf sur le toit, avec l'œil cacodilate, avec toutes les signatures de tous les surréalistes de ce temps, avec cette énorme charge musicale et poétique.
Qui est avec Jean Wiener qui vous donne
Wiener
des conseils.
Et voilà, Wiener et Doucet, qui sont admirés par les jazzmen d'outre-Atlantique. Voilà cette Amérique dont tout musicien de jazz rêve.
On écoute une chanson, même si la chanson est arrivée un tout petit peu après. Excusez-moi de me faire plaisir. Je pense que peut-être vous n'aimez pas réentendre toujours les mêmes, mais on peut difficilement s'en passer, si tu t'imagines.
Oh ouais.
Si tu t'imagines, fillette, fillette, si tu t'imagines que ça va, que ça va, que ça va durer toujours la saison, des à la saison, des à saison, des amours, ce que tu te gourres, fillette, fillette, ce que tu te gourres. Si tu crois petite, si tu crois que ton teint de rose, ta taille de guêpe, tes mignons biceps, tes ongles d'émail, ta cuisse de nymphe et ton pied léger, si tu crois que ça va, que ça va, que ça va, que ça va durer toujours ce que tu te gourres, fillette. Fillette, ce que tu te gourres, les beaux jours s'en vont, les beaux jours de fête, soleils et planètes tournent tout. Mais toi, ma petite, tu marches tout droit vers ce que tu vois pas. Très sournois s'approche l'aride véloce, la pesante graisse, le menton triplé, le muscle avachi. Allons, cueille. Cueille les roses, roses de la vie, roses de la vie, et que leurs pétales soient la mer étale de tous les bonheurs, de tous les bonheurs. Allons, cueille, cueille, si tu le fais pas, ce que tu te gourres, fillette. Fillette, ce que tu te gourres.
Voilà, et ça c'est un 78 tours, et oui, Columbia, enregistré le 30 juin 1950 avec Pierre Arimi et son ensemble. Vous vous rappelez cet enregistrement, Gérald Greco?
Je me rappelle parfaitement bien.
Ah oui.
Et j'ai eu une tendresse pour cette pauvre fille, petite.
Ah oui, c'est vraiment vos tout débuts, là.
Oui, qui articule 20 ans, hein. Le mieux possible, qui fait tout ce qu'elle peut pour essayer d'exister, quoi. C'est assez troublant pour moi.
Ah oui, mais ça a pris du premier coup.
Et ouais, mais j'ai fait plein de progrès.
Alors, vous racontez d'ailleurs ici comment, en fait, c'est Jean-Paul Sartre qui vous a fait découvrir cette chanson.
Ouais.
Il avait même sélectionné dans ses livres des textes qui pourraient faire des chansons pour vous.
Tout à fait, tout à fait. Et il m'avait fait des propositions tout à fait exotiques, du genre Tristan Corbière qui écrivait des chansons de marin extraordinairement violentes.
Ah oui, vous voyez comme une nouvelle Damia ou une...
Je sais pas du tout comment il me voyait, mais... Mais en tout cas, dans le choix, il y avait des choses que j'adorais, mais c'était assez curieux. Et il m'a dit, mais Greco, vous avez choisi, si tu t'imagines de Raymond Queneau, pourquoi vous avez choisi si tu t'imagines de Raymond Queneau et pas Tristan Corbière? J'ai dit, écoutez, monsieur, Tristan Corbière, c'est un peu viril pour moi, voyez-vous. Je comprends pas très très bien ce que ça veut dire. Mais l'éternel féminin, je comprends très bien. Et ça l'a fait rire. Et il m'a dit, je suis content que vous ayez choisi ça parce que ça va paraître dans un prochain livre qui est en train d'écrire Simone de Beauvoir.
Ah, c'est joli. Et on voit donc là, en fait, que donc on a évoqué cette rencontre avec Casalis, avec Marc Dolnitz, la pension de famille, etc. Donc il y a deux ou trois années, en fait, où vous êtes une jeune fille... devenant un peu malgré elle à la mode de ce nouveau quartier qui est en train de naître.
C'est complètement à côté de moi, ça.
Qui pense plutôt au théâtre qu'à la chanson, et même pas du tout à la chanson.
Pas du tout.
Et c'est vraiment Sartre qui vous met sur le chemin de la chanson.
Et oui.
Parce qu'il vous a repéré, parce que vous faites partie du même monde, du même petit milieu. Il s'est dit, tiens,
c'est lui qui m'a choisi.
Voilà.
Et j'en suis heureuse.
Et vous en êtes heureuse. Et vous avez rencontré également Raymond Queneau, l'auteur de cette chanson.
Tout à fait. On s'entendait très bien.
Il était pince sans rire, non?
Il était magnifique.
Ouais.
C'était un homme à la fois secret, timide et explosif.
Ouais.
Ça, c'est une bombe. Quand il riait, on avait l'impression qu'il détruisait des choses et qu'il en construisait d'autres. C'était un homme magnifique. C'était un homme généreux, inquiet, tendre. Qui m'a fait des dédicaces sur des bouquins très très troublantes et qui me servent comme ça. J'ai dans mon petit coffre-fort là où bat mon cœur. Et il a une place bien au chaud.
Mais quand vous avez commencé alors à enregistrer des chansons, donc poussé notamment par Sartre, et que ça a eu du succès, vous avez tout de suite compris que la chanson, ça allait devenir au fond un peu le centre de votre vie et de votre activité? Non, pas spécialement.
Non.
Il y avait toujours aussi bien le théâtre, aussi bien le cinéma, aussi bien la vie.
J'attendais n'importe quoi, que n'importe quoi arrive. Et puis je me suis attaché à la chanson parce que c'est un art vivant.
Oui.
Parce qu'on partage ça avec les autres.
Ouais.
Parce qu'on propose et qu'on attend une réponse.
Autre rencontre évidemment alors importante, et j'aimerais aussi peut-être qu'on l'évoque, notamment parce qu'on est sur France Musique et que c'est un grand musicien et qui est lié à ce début, c'est Cosma.
Bien sûr.
En fait, là encore, pour Si tu t'imagines, c'est Sartre qui a pensé que Cosma pourrait faire la musique.
Non, c'est moi.
C'est vous.
C'est moi, mais c'est lui qui a...
qui a ouvert la porte.
Mais c'est lui qui a téléphoné.
Ouais.
Parce que moi, c'est pas très possible pour moi. J'étais quand même, j'avais quoi, 19 ans.
Ouais.
Puis 19 ans à cette époque-là, c'était pas grand-chose.
Ouais. C'était même pas majeur, hein.
Ah non.
Bah non, c'était 21.
Non, moi je serais jamais majeur.
Ah ouais.
Non.
C'est vrai.
Bon, il n'en est pas question. Non, non, parce que là je serais morte.
Alors Cosma
magnifique, Cosma superbe, Cosma vivant une histoire d'amour avec une femme extraordinairement plus âgée que lui.
Ah oui.
Enfin, à ce qui m'a semblé à cette époque-là, mais c'était vrai, je crois. Enfin, je suis sûr. Et cette femme l'aimait.
Ouais.
Et elle faisait tout le boulot. Il habitait un dernier étage, rue de l'Université, un hôtel où avait habité Lamartine, d'ailleurs. Ça, c'était dans les combles. Il y avait une toute petite pièce. Et dans le fond, ça partait en triangle diminuendo. Et dans le diminuendo du triangle, il y avait une petite dame avec des cheveux tout blancs. qui avait des partitions étalées comme ça et qui écrivait toute la musique. Ah oui. Et cette petite dame était la compagne de...
Elle était en même temps sa copiste, quoi.
Elle était tout. Ah sa oui. maman, son amante, sa copiste, voilà. Et à ce moment-là, il a lu le texte et il m'a vu. Et il a fait probablement un rapport violent entre la jeunesse et la fin de vie.
Ouais. Et donc il a écrit cette merveilleuse chanson.
En une nuit.
En une nuit. Et puis alors l'histoire a continué avec lui, mais aussi avec Prévert, avec notamment une autre chanson qu'on va écouter maintenant, que je crois vous aimez peut-être particulièrement, La Belle Étoile.
Ouais. Hein. Parce qu'elle est affreusement d'actualité, comme d'ailleurs tout Prévert.
Elle a été un peu censurée d'ailleurs.
Ah complètement.
Oui.
Quand, oh là là, je me suis fait traîner dans la boue. Mais ça me gêne pas, c'est bon pour le tas.
Oui, voilà, parce qu'il y a une phrase sur la police un petit peu.
Oui, sur les juifs, sur ouais. enfin toutes sortes de choses.
Alors là, c'est donc Prévert et Cosma.
Prévert et Cosma, La Belle Étoile, au jour le jour, à la nuit la nuit.
Et on a passé un an, on est le 4 avril 1951. Et d'ailleurs, ça n'est plus l'orchestre de Pierre Arimi, je précise pour les spécialistes, c'est l'orchestre d'André Grassi.
Magnifique, c'était très beau.
Boulevard de la Chapelle où passe le métro aérien. Il y a des filles très belles et beaucoup de vauriens. Les clochards affamés s'endorment sur les bancs. Et de vieilles poupées font encore le tapin à 65 ans. Au jour et le jour. À la nuit, à la belle étoile, c'est comme ça que je vis. Où est-elle l'étoile? Moi je ne l'ai jamais vue. Elle doit être trop belle pour la première venue. Au jour et le jour, à la nuit, à la belle étoile. Comme ça que je vis, c'est une drôle d'étoile, c'est une triste vie. Boulevard Richard le Noir, j'ai rencontré Richard le Blanc. Il était pâle comme l'ivoire et perdait tout son sang. Tire-toi d'ici, tire-toi d'ici, voilà ce qu'il m'a dit. Les flics viennent de passer, histoire de se réchauffer. Il monte à ses années. Au jour et le jour, à la nuit, à la belle étoile, c'est comme ça que je vis. Boulevard des Italiens, j'ai rencontré un Espagnol. Devant chez Dupont, tout est bon après la fermeture. Il fouillait les ordures pour trouver un crouton. Encore un sale youpin, dit un monsieur très bien, qui vient manger notre pain. Au jour et le jour, à la nuit, à la belle étoile, c'est comme ça que je vis. Où est-elle l'étoile? Moi je ne l'ai jamais vue. Elle doit être trop belle pour la première venue. Au jour et le jour, à la nuit, à la belle étoile, c'est comme ça que je vis. C'est une drôle d'étoile, c'est une triste vie.
Julie Juliette Gréco dans « Ah, la belle étoile », le comité d'écoute, écrivez-vous, en novembre 1951, avait interdit certaines répliques, et notamment, alors, les flics viennent de passer, histoire de s'échauffer, ils m'ont assaisonné. Mmh. Voilà.
Oui, c'est une actualité tout à fait remarquable.
En tout cas, ce qui me frappe, alors musicalement, Juliette Gréco, c'est l'assurance que vous avez prise en un an. Parce qu'on a écouté
c'est
avant,
hein,
si tu t'imagines, vous, comme vous dites, c'est la petite jeune fille timide devant son micro, et là, la voix se révèle, se donne pleinement.
Oui, ça commence avec là.
Avec beaucoup de contraste. Vous avez conscience que vous avez une voix profonde, une voix ample, une voix de chanteuse, au fond.
Ouais.
Non,
ouais. Non.
Est-ce que vous avez, d'une façon ou d'une autre, travaillé votre voix?
Ah non.
Jamais.
Non. Et puis, je sais pas, peut-être que si je savais chanter, je ne pourrais pas dire ce que j'ai envie de dire comme j'ai envie de le dire.
C'est le texte qui donne sa couleur à la voix,
oui,
chez vous, c'est ça?
Oui. C'est le texte qui porte. Ce sont les mots qui obligent.
Voilà, mais alors donc, aucune question technique ne s'est jamais vraiment posée à vous.
J'ai le bonheur d'avoir une respiration naturelle.
Ah oui.
Ça s'appelle la colonne d'air.
Oui, c'est important, hein, déjà, oui.
Quoique Kalash me dit que j'aurais intérêt à porter un corset quand je chante.
Oui. Mais... elle est venue vous écouter. Hein.
Oui, elle venait souvent, oui. Elle m'aimait bien.
Oui.
Elle se disait, cette garce à la liberté que je n'ai pas.
Oui, c'est ça. Oui. Peut-être voilà. C'est ce qu'elle aurait aimé faire aussi, d'une certaine façon.
Certainement, elle aurait aimé hurler son plaisir.
Et vous auriez aimé chanter la tragédie lyrique?
Non. Je ne suis pas capable. De toute façon, il n'en était pas question. Il n'y avait pas de problème.
Donc quand même, la colonne d'air, vous aviez ça pour vous.
J'avais ça pour moi, et puis aussi une articulation correcte.
Voilà. Et puis alors au fond, beaucoup de pratique, parce qu'on voit aussi dans...
J'ai travaillé beaucoup, chanté beaucoup.
On voit ici, c'est intéressant, parce qu'on pourrait avoir l'impression que vous êtes devenu tout de suite, au fond, une vedette, une star, un personnage people, comme on dirait aujourd'hui. Mais en même temps, vous faites tous les cabarets, comme tous les collègues.
Complètement refusé par un certain public.
Oui, d'une part, oui, c'est vrai.
Extrêmement nombreux.
Vous racontez comment dans certains endroits, à Marseille ou autre...
Je me suis fait jeter comme une malpropre.
Oui, tout à fait. Parce qu'on n'acceptait pas tellement ce genre de personnage féminin sur une scène.
Je ne sais pas du tout. Alors, les gens disaient que j'étais ronde et pulpeuse, et que c'était scandaleux de montrer ses formes, ce qui n'était pas du tout mon intention. Mes formes ne m'intéressaient pas du tout, et toujours pas d'ailleurs, heureusement. Et j'étais en même temps ce qu'ils appelaient l'intellectuel.
Voilà, c'est ça, oui. C'était plutôt la chanteuse un peu trop poétique pour le grand public.
Et puis c'était too much, c'est cette femme qui offre un aspect charnel, qui chante des chansons relativement incompréhensibles, poétiques et littéraires. Qu'est-ce qu'elle vient foutre là? Voilà, c'est ça, c'est un peu ça, quoi. Voilà.
Mais je disais, en même temps que vos débuts, malgré tout, parisiens assez brillants, on vous voit continuer à faire aussi, comme les autres chanteurs, tous les cabarets de la rive gauche, en tout cas pas mal de...
Il n'y en avait pas tellement, il y avait la Rose Rouge.
Notamment la Rose Rouge.
Ouais. J'ai fait la Rose Rouge comme on entre à la Comédie Française.
Ah oui, c'est aussi important
là.
Que ça.
C'était très, très gratifiant de travailler à la Rose Rouge, parce qu'il y avait des gens... qui n'étaient pas encore reconnus comme étant ce qu'ils étaient, mais qui étaient des gens extraordinaires, avec tous les Noirets, les Piccoli, tous les acteurs fabuleux dont il nous en reste encore quelques-uns, heureusement. Et puis, tout ce qu'a pu créer ce contexte avec les frères Jacques, avec Raymond Queneau, une fois de plus.
Le mélange le musical, d'une certaine façon.
Et puis, les débuts de Marcel Marceau, des gens tout à fait inconnus à cette époque et qui sont super reconnus aujourd'hui.
Alors d'ailleurs, c'est quelque chose qui est très, très plaisant dans ce livre, c'est qu'on sent la curiosité des autres chez vous, et notamment, par exemple, ce goût que vous avez très tôt pour les grands auteurs-compositeurs de la chanson.
Toujours.
Alors, ça, c'est vraiment ce qui vous porte, d'une certaine façon.
Toujours.
Ce soit le tout jeune Gainsbourg, que ce soit Brel un peu plus tard, que ce soit Léo Ferré qu'on a évoqué. Vous aimez ces grands personnages de la chanson. Tout de suite, c'est vers eux que vous allez, d'une certaine façon.
Je vais vers eux qui sont inconnus.
Oui, c'est ça. Oui.
Ceux
qui sont pour nous des grands personnages de la chanson.
Et qui sont devenus incontournables. Ouais. Mais le talent, le poète, l'écrivain me bouleverse.
Et puis, même alors, certains de la génération précédente, alors on va écouter pour le plaisir, parce que je sais que vous l'aimez aussi. Ça paraît un peu plus inattendu quand on pense à Saint-Germain, à la rive gauche, à la chanson de gauche. Malgré tout, aussi Charles Trenet.
On recule pas là. Ça fait 85 ans que j'avance.
Mais il y a aussi Charles Trenet qui est dans les aînés, un de ceux.
Qui naît sans, comme l'ont dit Brel, comme l'ont dit Brassens, comme presque tous l'ont dit, comme tous ces poètes et ces écrivains et ces littérateurs de la chanson, si j'ose dire. Tous ces gens-là disent, sans lui, on ne serait pas.
Oui. Mais ça allait de soi à ce moment-là, parce qu'il avait tendance plutôt à passer de mode à ce moment-là, Trenet, d'une certaine façon.
Ah non. Non. C'est quand même un dieu.
Les jours de repassage dans la maison qui dort, la bonne n'est pas sage, mais on la garde encore. On l'a trouvée hier soir derrière la porte de bois, avec une passoire se donnant de la joie. La barbe de grand-père a tout remis en ordre, mais la bonne en colère a bien failli le mordre. Il pleut sur les ardoises, il pleut sur la basse-cour, il pleut sur les framboises, il pleut sur mon amour. La revanche des orages a fait de la maison un tendre paysage pour les petits garçons qui brûlent d'impatience deux jours avant Noël et sans aucune méfiance acceptent tout pêle-mêle. La ville, la mort, les squares et les trains électriques, les larmes dans les gares guignolent et les coups de trique, les becs d'acétylène aux enfants assistés et le sourire d'Hélène par un beau soir d'été. Donnez-moi quatre planches pour me faire un cercueil. Il est tombé de la branche, le gentil écureuil. Je n'ai pas aimé ma mère, je n'ai pas aimé mon sang, je n'ai pas aimé la guerre, je n'ai pas aimé la mort. Je n'ai jamais su dire pourquoi j'étais distrait. Je n'ai pas su sourire à tel ou tel attrait. J'étais seul sur les routes, sans dire ni oui ni non. Mon âme s'est dissoute. Poussière était mon nom.
Ça me tue.
Oui, ça c'est beau, hein, vous aimez cette chanson.
C'est trop beau, oui, c'est trop beau, c'est trop beau.
La folle complainte de Trenet. Non, mais ça me fait plaisir parce que moi je pensais qu'il y avait une rupture au fond entre la génération Saint-Germain et Trenet qui à ce
pas
moment-là.
Non, pas du tout. C'est une référence.
Ça a resté la référence.
Ah, c'est la référence absolue, oui. De tous les écrivains, en tout cas.
En plus, c'était pas vraiment. Parce que vous êtes une chanteuse engagée, c'était pas vraiment un chanteur de gauche, entre guillemets, Trenet.
On s'en fout. Pas le problème.
C'est un poète.
Le problème, c'est ce qu'il dit. Oui. Mais de toute façon, c'est extrêmement asocial, révolutionnaire et
ce qu'il dit là, oui, certainement, oui, vous avez raison.
Ce qu'il dit est terrible.
Oui, c'est vrai. Il a d'ailleurs écrit aussi quelques chansons pour vous. Hein.
Il a écrit Coin de rue. Sur un coin de table, sur une nappe en papier au restaurant. Et puis une autre chanson qui s'appelait « Où sont-ils donc tous ces pays ?»
Voilà.
Dont on nous parle dans les chansons.
Très jolie chanson, ne pas confondre avec le Où est-il donc chanté par Fréhel?
Voilà. Non.
Dans Pépé Moko.
Où sont-ils? Où sont-ils donc?
Et justement, alors Fréhel, traîné, on n'a pas évoqué ça tout à l'heure. Dans votre enfance, chez vos grands-parents à Bordeaux, Juliette Gréco, il y avait classique. Un peu de musique, classique uniquement.
Classique. Je revois la petite main de ma grand-mère remonter les manivelles du phono.
Oui, oui.
Je sens l'odeur de ce phonographe qui était très particulière et le bruit des aiguilles dans la boîte.
Mmh. Oui, bien sûr, oui.
Tout ça est très présent dans ma vie, dans mon quotidien.
Mais pas beaucoup de chansons à ce moment-là, donc.
Il y avait, du grand couillon qui chantait des trucs pas possibles, du genre « Ce matin la route est en fête !»
Ah oui, bien sûr.
Machin, hein, qui s'appelait André Bauger. Et puis, il y avait Caruso.
Et Caruso qui a...
Alors Caruso, ma grand-mère remontait la manivelle avec une certaine excitation.
Mais vous n'avez pas, au fond, eu une grande passion pour la chanson française d'avant-guerre, si on met traîner à part toutes les chanteuses réalistes. Parce que vous avez repris quand même des chansons dans certains albums.
J'aime Yvonne Georges, que personne
qui est complètement oublié,
ne remet plus dans sa bouche, et c'est bien dommage.
Morte
et dans sa
très
mémoire.
Jeune de la tuberculose, grande chanteuse.
Formidable personne. Damia, qui était... Moi, ça me faisait rire un peu, les marins qui meurent en mer.
Oui,
ça faisait une peur épouvantable. Elle ne m'aimait pas du tout.
Vous l'avez croisée?
Oui, je l'ai croisée un jour dans les coulisses de l'Alhambra, où elle était là, où elle m'a regardé avec un mépris formidable.
Ah oui.
J'étais triste comme tout, j'étais comme un pauvre machin réduit
à néant. Elle était ta mère à la fin de sa vie parce qu'elle
était mauvaise comme une teigne.
Oui.
C'est dommage. Moi, je garde pour elle une admiration profonde parce que c'était vraiment ce qu'on appelle la tragédienne de la chanson.
Oui, c'était déjà la chanteuse en noir, d'ailleurs.
Déjà. Absolument.
Au fond, elle a été un petit
nous
peu...
Nous n'avons rien inventé.
Elle a ouvert une voie.
Nous n'avons rien inventé, ni les unes ni les autres, ni Piaf, ni Barbara, ni moi.
Et au fil du temps, d'ailleurs, vous avez inséré dans certains de vos disques quelques-unes des chansons de cette époque, de ce répertoire. On en retrouve...
Non.
Pas de Damien, mais des chansons d'avant-guerre, je veux dire, chansons anciennes.
Oui. Il y en a une que je me propose un jour de chanter en scène, si jamais Dieu me prête vie. S'il y en a un.
Oui. Hein,
coucou.
Oui.
Coucou, je suis là. Qui s'appelle le Doukaboulou et qui est un chef-d'œuvre.
Merveilleux. Créée par Marie Dubas, je crois.
Bah, c'est elle.
Voilà.
Et elle m'a téléphoné un jour, Marie Dubas.
Ah oui.
Et elle m'a dit des choses aimables et j'étais bouleversé.
Ah, ça c'est bien. C'est une grande dame de la chanson aussi qu'on a souvent évoquée dans cette
émission. Un être super.
Émission.
Cette espèce de chose aérienne comme ça,
oui.
Qui dansait avec une robe blanche et puis une ceinture verte en soie. Et elle était extraordinaire.
Et qui pouvait faire à la fois du tragique et du comique, ce qui était assez rare chez les chanteuses de cette époque-là.
Absolument.
Ah ben, je vois que vous aimez vraiment, ça me fait plaisir. Juliette Gréco. On va écouter une autre chanson. Alors là, ça me fait plaisir aussi parce que j'aime beaucoup l'orchestration. Puis c'est Boris Vian. Et puis c'est un musicien que j'avais le plaisir de recevoir ici, avec qui vous avez beaucoup travaillé, c'est André Pop.
J'adore André Pop.
Hein, oui.
Et c'est un superbe musicien.
Voilà, et ça s'appelle Musique mécanique.
Oui, formidable.
Quand l'été vient de ma fenêtre sous les toits, j'entends monter du vieux bistrot qui est tout en bas, une rumeur pleine de rire et de chansons, des polkas, piano là. Les jolies filles aux cheveux courts, aux talons longs, viennent chercher un petit béguin, un petit frisson. Le patron sert le muscadet dans des verres verts, un vin frais qui est gai. Et la musique tourne, tourne, et les danseurs s'enlacent comme ils enlaceraient le vrai bonheur. Instant fragile où l'amour passe, où l'amour naît, et vous met la tête à l'envers. Le patron invite la patronne, ils oublient soudain leur comptoir, et se mêlent aux fripons, aux friponnes qui gambillent devant le petit bar. Voici 20 ans qu'ils ont repris ce vieux café. Ils l'ont laissé tel qu'il était, sans rien changer. La vieille glace a bien vu 10 000 amoureux se regarder dans les yeux. Même s'il tombe de la pluie sur les pavés, y a du soleil quand le piano là se met à tourner. Les vieux clients hochent la tête en cadence pour rythmer chaque danse. Le chien bourru met son museau sur ses grosses pattes. Le chat blanc finit sa toilette sans faire des pattes. Encore un coup de vin clairé, puis l'on part. Au revoir, on reviendra ce soir. La nuit venue, je suis descendu dans le petit bar. Piano la jouait sa musique un peu bizarre. Il y avait un gars assis tout au bout du comptoir. Je me suis approché. Il a souri, on s'est compris sans rien dire. Serré bien fort l'un contre l'autre, on a dansé. Son cœur battait, mon cœur battait sans s'arrêter. Et on s'est embrassé. Et maintenant on vit ensemble, on est heureux. Quand vient l'été à la fenêtre, on rêve à deux. Et chaque soir monte vers nous la musique, la jolie musique mécanique.
1957, musique mécanique. Alors là, donc l'orchestre d'André Pop, très jolie chanson de Boris Vian, qui est tout le temps présent dans votre vie, en tout cas de cette époque-là, et qui n'est pas si présent que ça d'ailleurs dans votre discographie.
Pour Julia une bonne raison, que c'est qu'il a une interprète magique.
Ah oui,
enfin, que j'adore, ah oui, et qui s'appelle Magali Noël.
Ah, et comment?
Voilà.
Je l'avais reçue ici avec beaucoup de plaisir.
Vous avez vrai bien fait parce que c'est une formidable personne et que c'est une interprète de Boris inégalable. Et que quand quelqu'un fait une chose que j'aime et que j'admire, qu'est-ce que je viens faire derrière?
Ah, c'est très élégant comme ça.
Ça me semble normal.
Bon, écoutez, en tout cas, bravo pour cette complète mécanique et tout cet album, d'ailleurs très amusant. C'est titré dans la réédition CD Juliette New Style. C'était à la fin des années 50 et c'était vrai qu'il y a une couleur un peu moderne avec toutes ces chansons comme Chandernagore, etc. Enfin, ça change un peu des chansons poétiques de la période d'avant.
Super auteur que Guy Béard.
Que Guy Béard, que vous aimez aussi et que vous aimez
que j'admire profondément, oui.
Autre personnage alors présent dans ce livre qu'on va évoquer presque pour finir parce que malheureusement il va falloir nous quitter, c'est trop court, mais bon, Jacques Brel, que vous avez vu à ses tout débuts, Juliette Gréco, quand il chantait encore dans les cinémas.
Hein, oui, devant l'écran. Oui, pour faire patienter les spectateurs jusqu'à au commencement du film, voilà. Ils étaient coincés comme ça, derrière l'écran, dans une coulisse. Comme c'était un cinéma, ce n'était pas un théâtre. Les coulisses étaient quasi inexistantes, il n'y avait que l'écran blanc. Voilà, il était là avec sa petite guitare, son petit tabouret.
Voilà.
Posait son pied sur le tabouret et puis il chantait trois chansons entre les deux films. Et j'étais là et j'ai vu cet homme, ce très jeune homme. Je suis resté absolument scotché sur mon siège. Et puis, quelques jours après, étrangement, Jacques Canetti me dit « Voilà, j'ai un nouvel auteur-compositeur, il est belge, est-ce que ça vous intéresse de le... » Je lui dis « Mais il s'appelle comment ?» Il s'appelle Jacques Brel. Je dis « Mais je l'ai vu l'autre jour au cinéma au Gaumont. » Et j'ai trouvé ça formidable. Il me dit « Ben écoutez, si vous voulez, il vient chez vous. » Et puis j'ai vu arriver un grand échalas avec des grands bras. Et au bout d'un de ses bras, il y avait un cercueil de guitare.
Ouais.
Et puis j'ai vu son visage dans la lumière parce que le couloir était sombre, d'un rez-de-chaussée. Et moi j'étais dans le salon, il y avait un piano. Je lui ai dit, voulez-vous vous asseoir là? Et puis il ne jouait pas de piano, donc il a sorti... de son étui la guitare, et il a commencé à jouer et je suis resté absolument sans voix, ébloui.
Il est resté proche toute sa vie, toute hein,
vie.
Vraiment, c'est quelqu'un.
Toute ma vie,
vous avez
la sienne.
Chanté les chansons et vous avez suivi ses spectacles, vous êtes devenu ami. Et Alors, c'est comme ça que vous avez rencontré celui qui est aujourd'hui votre mari, Gérard Joannès.
Oui,
qui
pas vraiment, parce
qui était le musicien, le pianiste de Jacques Brel, François Robert étant le chef d'orchestre. Enfin, c'était
étant
les deux.
Le chef d'orchestre, en même temps que le compositeur de beaucoup de choses.
Voilà.
Ce que les gens oublient, c'est que
Gérard Joannès a composé quelques-unes des plus belles chansons,
oui,
bien sûr, de Brel.
Ouais, oui, il y en a une quarantaine, plus de 40 chansons.
Mais la première fois que vous l'avez...
Dans Les Vieux Amants, des choses comme ça, Mathilde.
La première fois que vous l'avez vu...
La première fois que je l'ai
Jacques
vu,
Brel au piano, vous avez pensé que ça deviendrait un jour votre mari?
Pas du tout. Je suis sorti de mon lit, il était midi, j'étais en déshabillé vaporeux, les yeux mi-clos, et ils sont venus m'apporter le déshabillé n'était pas transparent, je le précise. Ils sont venus me jouer une chanson qui était On n'oublie rien.
Ah oui.
De rien. On n'oublie rien du tout. Voilà. Et là, il y avait Gérard et Jacques. Oui. Gérard, on a gardé un souvenir tout à fait surpris, complètement ahuri. Il a vu arriver cette dame en déshabillé, il s'est demandé ce qui se passait. Et puis ils sont repartis, et puis j'ai chanté la chanson très vite. Et puis quelques années plus tard, voilà.
Vous parlez d'ailleurs très librement des hommes, hein, dans ce livre-là, des hommes de votre vie, ceux que vous avez épousés comme Michel Piccoli, ceux qui ont été des grandes aventures, mais enfin, et pourquoi ça s'est terminé aussi, enfin, il n'y a pas trop vous cherchez pas à envelopper tout ça dans du pathos ou un voile pudique.
Il y a un voile pudique.
Oui.
Il y a un voile pudique. Si, il y a un voile pudique.
Oui, c'est vrai. Oui.
Ah non, je dis pas tout. Hein.
Bon, on écoute J'arrive, une des plus belles chansons de Jacques Brel et de Gérard Joannès, oui, que vous avez enregistrée, Juliette Gréco.
De chrysanthème en chrysanthème, nos amitiés sont en partance. De chrysanthème en chrysanthème, la mort potence nous dulciner. De chrysanthème en chrysanthème, les autres fleurs font ce qu'elles peuvent. De chrysanthème en chrysanthème, les hommes pleurent, les femmes pleuvent. J'arrive, j'arrive. Mais qu'est-ce que j'aurais bien aimé encore une fois traîner mes os jusqu'au soleil, jusqu'à l'été, jusqu'au printemps, jusqu'à demain. J'arrive, j'arrive. Mais qu'est-ce que j'aurais bien aimé encore une fois voir si le fleuve est encore fleuve, voir si le port est encore port, y voir encore. J'arrive, j'arrive. Mais pourquoi moi? Pourquoi déjà? Pourquoi maintenant? Et où aller? J'arrive, bien sûr j'arrive, n'ai-je jamais rien fait d'autre qu'arriver? De chrysanthème en chrysanthème, à chaque fois plus solitaire. De chrysanthème en chrysanthème, à chaque fois surnuméraire. J'arrive, j'arrive. Mais qu'est-ce que j'aurais bien aimé encore une fois prendre un amour comme on prend le train pour plus être seul, pour être ailleurs, pour être bien. J'arrive, j'arrive. Mais qu'est-ce que j'aurais bien aimé encore une fois remplir d'étoiles un corps qui tremble et tomber morte, brûlée d'amour. Le cœur en cendres. J'arrive! J'arrive! C'est même pas toi qui en avance, c'est déjà moi qui suis en retard. J'arrive, bien sûr j'arrive, n'ai-je jamais rien fait d'autre qu'arriver. J'arrive, j'arrive.
J'arrive, c'était donc encore une des nombreuses chansons, alors pour le coup de Jacques Brel, que vous avez inscrites à votre répertoire, oui. Et qui reviennent encore régulièrement.
Oui, il y en a que j'ai envie de reprendre, comme Je suis bien par exemple, qui est une très très belle chanson, voilà, qu'il a écrite pour moi.
Vous étiez il n'y a pas très longtemps au Châtelet.
Oui.
Avec juste deux musiciens. Vous aimez le dépouillement dans le tour de chant, hein.
J'aime bien.
Vous avez eu très longtemps un pianiste, Henri Patterson, avec qui vous avez beaucoup joué aussi. Oui. Là, c'était avec Gérard Joannès, bien sûr, et un accordéoniste.
Jean-Louis Matinier.
Voilà. Mais vous aimez bien cette pureté, d'une certaine façon, du spectacle.
Plus c'est dépouillé, et plus on entend les mots.
Vous avez toujours quand vous entrez dans une salle de 2000 personnes comme ça, qui vous adulent de toute façon, donc il n'y a pas de problème, mais vous avez toujours le trac, Juliette Gréco
C'est au-delà.
Ah, c'est au-delà, oui.
Ah oui, c'est au-delà, c'est maladif. C'est une épreuve. Voilà.
Et vous en êtes sortie heureuse.
Oui, heureusement.
Oui. Ça vous a donné envie.
Ça s'appelle du bonheur.
Ça vous a donné envie de faire encore encore
ça,
de la scène.
Ça me redonne des forces.
Oui. Bon. Merci Juliette Gréco d'être venue évoquer tous ces souvenirs avec nous. On va se quitter avec, alors, Serge Gainsbourg, La Javanaise, encore une chanson écrite pour vous.
Oui.
Ah, allez, pour finir, pour la bonne bouche, pour nos invités, un petit mot de
Serge.
De Serge.
Bah, ce soir-là était un soir à bulles, c'était un soir d'été, c'était un soir de fenêtres ouvertes, de musique, d'ivresse un peu, comme ça, d'oubli des choses. Et puis je me suis mise à danser, ce que je ne fais jamais.
Ouais.
Et puis Serge me regardait avec des yeux absolument étonnés, de voir cette femme se mettre en mouvement bizarrement. Et puis le lendemain vers midi, il m'a appelé, il m'a dit « j'ai quelque chose pour vous ». Et c'était un des plus beaux bijoux que j'ai reçus dans ma vie.
Merci Juliette Gréco.
Merci à vous.
J'avoue, j'en ai bavé, pas vous, mon amour. Avant d'avoir eu vent de vous, mon amour. Ne vous déplaise. En dansant la javanaise, nous aimions le temps d'une chanson. À votre avis, qu'avons-nous vu de l'amour? De vous à moi, vous m'avez eu, mon amour. Ne vous déplaise en dansant la javanaise, nous aimions le temps d'une chanson. Hélas, avril en vain me voue à l'amour. J'avais envie de voir en vous cet amour. Ne vous déplaise en dansant la javanaise,
nous nous aimions le temps d'une chanson. La vie ne vaut d'être vécue sans amour, et c'est vous qui l'avez voulu, mon amour. Ne vous déplaise en dansant la javanaise. Nous nous aimions le temps d'une chanson.
Sur la javanaise s'achève cet entretien avec Juliette Gréco dans « Étonnez-moi Benoît » du 17 mars 2012. Un joli moment que nous avions passé ensemble à l'occasion de la parution de ces souvenirs qu'on trouve d'ailleurs toujours et que je vous recommande beaucoup. Ça s'appelle « Je suis faite comme ça » et c'est paru chez Flammarion et aussi en point poche.
Étonnez-moi Benoît, Benoît Dutertre, France Musique.
Et puis je voudrais aussi vous signaler que Juliette Gréco est à l'honneur depuis mercredi et encore tout ce week-end sur France Musique, avec notamment tout à l'heure à 13h Ciné Tempo par Thierry Jousse, demain dimanche à 12h30 Tour de chant de Martin Péné, et encore un autre hommage à Juliette Gréco à 19h dans l'émission de Laurent Valero. Repassez-moi le standard.
Thank you.
Et oui, je l'avoue, depuis le ballet Les Sylphides, j'adore les versions orchestrales des pièces pour piano de Frédéric Chopin. Ici, la valse en ut dièse mineur dans l'orchestration d'Alexandre Glazounov, grand compositeur russe mort à Neuilly sur Seine en 1936 et qui avait intégré cette pièce dans son ballet Chopiniana. Glazounov, c'est d'ailleurs un des noms qu'on retrouve dans le roman de Masha Meril, Vania Vassia et la fille de Vassia, l'histoire d'une famille russe exilée en France. Masha Meril sera donc là samedi prochain pour parler de ce roman et aussi pour évoquer son spectacle Sorcière tous les jours à 19h au théâtre de Poche Montparnasse avec des textes de Marguerite Duras et des musiques de Michel Legrand qu'on évoquera bien sûr tous les deux. Vous avez reconnu mon cher Errol Garner avec son trio dans cette pièce de Rodgers and Hart intitulée This Can't Be Love. Et puis tiens, j'ai encore ressorti pour vous une petite rareté qui m'a semblé particulièrement d'actualité, puisqu'il s'agit de L'amour masqué, une opérette de Sacha Guitry et André Messager dans laquelle les protagonistes, masqués, tâchent de se séduire sans se voir, mais aussi, il faut bien l'avouer, sans respecter vraiment les gestes barrières.
Viens, il est vrai que tu m'attends, viens dans mes bras que je te tends, mets ta rose auprès de ma rose. Offrir son bras, c'est vraiment peu, et puisqu'on peut t'offrir les deux, pourquoi faire à moitié les choses?
Oh, dans tes bras que tu me tends, sais-tu pourquoi, toi que j'attends, je me blottis, je me pose. Sais-tu de moi certaines choses? Sais-tu pourquoi, toi que j'attends, je t'aime tant?
Ne nous cherchons pas de raison, les mots ne sont plus de saison lorsque déjà les corps se frôlent. Tu m'attendais, je suis venu, mais puisque tu veux l'inconnu, l'inconnu veut garder son rôle. Je ne sais pas faire la cour, mais dans l'art de faire l'amour, on m'a dit que j'étais un maître. Mon masque tient, garde le tien, car j'aimerais beaucoup demain pouvoir ne pas te reconnaître.
Entre tes bras, quand tu me tiens, sais-tu pourquoi je sais si bien souscrire à ce que tu proposes? Sais-tu pourquoi je suis ta chose, je
masque de velours noir, quand tu tressailles, je crois voir toutes les belles inconnues qui passèrent sur mon chemin, dont je n'ai pu toucher la main, et qu'hélas je n'ai jamais eu, jamais jusqu'ici, mais ce soir, je vais donc toutes les avoir, baisant leurs lèvres sur les tiennes, et quant aux bouches qui t'ont plu, et que tu n'as pas eu non plus, viens donc les baiser sur la mienne.
Et je suppose que beaucoup d'entre vous auront reconnu le duo Sacha Guitry, Yvonne Printemps sous son masque de velours noir, comme dit ce maître dans l'art de faire l'amour. Il se désigne lui-même sans modestie. En tout cas, voilà cette opérette de 1923 enregistrée ici en 1929 et qui mériterait drôlement qu'on la remonte en cette époque bizarre. Ça s'appelle « L'amour masqué ».
Maintenant que tu vis à l'autre bout de Paris, quand tu veux changer d'âge, tu t'offres un long voyage. Tu viens me dire bonjour au coin de la rue du Four. Tu viens me visiter à Saint-Germain-des-Prés. Plus d'après, à Saint-Germain-des-Prés. Plus d'après-demain, plus d'après-midi, il n'y a qu'aujourd'hui, quand je te reverrai, à Saint-Germain-des-Prés. Ce ne sera plus toi, ce ne sera plus moi, il n'y a plus d'autre foi. Tu me dis comme tout change, les rues te semblent étranges, même les cafés crèmes n'ont plus le goût que tu aimes. C'est que tu es un autre et que je suis une autre. Nous sommes étrangers à Saint-Germain-des-Prés. À Saint-Germain-des-Prés, plus d'après-demain, plus d'après-midi, il n'y a qu'aujourd'hui quand je te reverrai. À Saint-Germain-des-Prés, ce ne sera plus toi, ce ne sera plus moi, il n'y a plus d'autre foi à vivre au jour le jour. Le moindre des amours prenait dans ses ruelles des allures éternelles. Mais à la nuit, c'était bientôt fini. Voilà l'éternité de Saint-Germain-des-Prés. À Saint-Germain-des-Prés, plus d'après-demain, plus d'après-midi, il n'y a qu'aujourd'hui quand je te reverrai. À Saint-Germain-des-Prés, ce ne sera plus toi,
ce ne sera plus moi. Il n'y a plus d'autre foi.
Tout le monde la connaît, bien sûr, mais ça me faisait plaisir de terminer cet hommage à Juliette Gréco par cette si poétique chanson de 1965, déjà en forme d'adieu à tout un monde disparu, ce Saint-Germain-des-Prés, où l'on chantait et où l'on dansait. Alors dansons-nous aussi avant de nous séparer sur le rythme de la grande valse de concert numéro 1 d'Alexandre Glazounov.
Thank you.
l'orchestre de la Radio de Moscou sous la direction de Vladimir Fedoseyev dans cette valse de concert numéro 1 de Glazounov, compositeur aussi par ailleurs du ballet Raymonda qu'on peut en voir encore à l'Opéra de Paris ou encore de 9 symphonies qu'on donne malheureusement bien trop rarement alors que ce compositeur a passé les 10 dernières années de sa vie dans notre beau pays. Ainsi s'achève Étonnez-moi Benoît, une émission de Benoît Dutertre préparée par Annie Comier, avec aujourd'hui à la technique Benjamin Vignal, réalisation Christine Amado. Et la semaine prochaine, bien sûr, donc, j'aurai la joie d'accueillir Macha Merrill. D'ici là, sur France Musique, vous avez rendez-vous maintenant avec Sébastien Linares.
À réécouter sur francemusique.fr.